faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Bonsoir à tous. Athènes, capitale du monde du sport pour 15 jours. Les Jeux Olympiques ont retrouvé leur terre natale. Plus de 10 000 athlètes vont s'affronter lors de ces JO, les 25e de l'époque moderne. Ce soir, la cérémonie d'ouverture qui a duré 3h30 a été un hommage à la Grèce et à son histoire.
L'histoire des Jeux Olympiques en Grèce. Sous l'Antiquité, ce furent 10 siècles ininterrompus de rituels sportifs. 10 siècles d'unification du monde hellénistique avant d'être supprimés par l'empereur romain chrétien Théodose en l'an 393 de notre ère, car ces Olympiades grecques furent jugées païennes par l'Église catholique. Se pencher sur l'histoire du sport antique, c'est sonder les origines de la geste sportive dans la civilisation occidentale. C'est donc à nouveau comprendre d'où nous venons. Et alors ce soir, en cette fin d'année qui aurait dû être olympique avec les 32e Olympiades de l'ère moderne à Tokyo, prévues l'été dernier, annulées pour les raisons que l'on sait, et bien ce soir donc deux invités au micro d'Inter pour nous immerger dans l'histoire de ces Jeux antiques. Tout d'abord, il est historien, Jean-Manuel Roubineau enseigne l'histoire ancienne à l'Université libre de Bruxelles et il est l'auteur, entre autres, d'une excellente biographie de Milon de Crotone, héros du sport antique. Et à ses côtés, une romancière férue des civilisations anciennes. Elle est l'auteur d'un livre passionnant consacré aux premiers Jeux Olympiques. Violaine Vollenicke, bonsoir.
Oui, bonsoir Philippe.
Et bienvenue à vous. Et puis, juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio ce soir, le comeback des échecs. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, les Jeux Antiques, culte religieux, culture du corps.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Sale temps, oui, sale temps pour les légendes du football. Les morts se succèdent après Maradona et Gérard Rouillet cette semaine. Une icône italienne a cassé sa pipe la semaine dernière. Paolo Rossi avait 64 ans, petit prince de la péninsule. Toute l'Italie était tombée amoureuse de Paolo Rossi durant l'été 1982. Hommage ce soir donc pour commencer à ce contrebandier des 80s.
C'est en Italie que nous allons trouver le champion des champions pour l'année. Ainsi en a jugé le jury de notre confrère L'Équipe, qui a couronné numéro 1 mondial pour 82, Paolo Rossi, l'artisan de la victoire italienne au mondial.
Drôle de cheminement que celui de Paolo Rossi. Mai 1980, l'Italie est sous le choc. Son calcio, son football est malade, pire pourri. C'est le scandale du Toto Nero, les paris clandestins. Des matchs ont été truqués, la justice va frapper dur et fort. Le club de Milan est rétrogradé en deuxième division. Des dirigeants et des joueurs sont radiés à vie. Et le comble, oui, Paolo Rossi, le Platini italien, est suspendu 3 ans. Mais comme sa culpabilité n'a jamais été démontrée, sa peine sera finalement ramenée à 2 ans.
Aborderez-vous la compétition avec un esprit de revanche ?
Revanche, non, mais j'ai tellement envie de jouer, car on m'a privé des deux plus belles années de ma vie de joueur, entre 23 et 25 ans.
5 juillet 82, Italie-Brésil à Barcelone. 3 buts de Paolo Rossi emmènent la Squadra Azzurra en finale du Mondial.
L'Italie était donc qualifiée pour les demi-finales, 3 jours plus tard. Et pendant que la France cédait au pénalty face aux Allemands de l'Ouest, l'Italie, elle, battait la Pologne 2-0 grâce encore à 2 buts de Paolo Rossi. La Squadra avait donc gagné le droit de jouer la finale et c'était encore l'attaquant de la Juventus, Paolo Rossi, qui mettait l'Italie sur la voie du triomphe en marquant le premier but. C'était son 6e but en moins de 4 heures de jeu. Et en 6 jours, du 5 au 11 juillet, Rossi est devenu le footballeur de l'année. Malheureusement pour lui, depuis ce 11 juillet, il est redevenu un joueur presque quelconque, sauf pour les chasseurs d'autographes, bien sûr.
C'était l'hommage du tigre à Paolo Rossi, l'élégance, oui, l'élégance italienne. On reste en Méditerranée, voici l'histoire du dimanche soir. Connaissez-vous le Péloponnèse ? Autrement dit, l'île de Pélops, péninsule grecque de 21 000 km². À l'ouest du Péloponnèse se trouve une petite plaine sur la rive droite de l'Alphée. Et lorsque vous arrivez au pied du mont Cronion, disons à 18 km au nord de la ville de Pyrgos, vous tombez sur le site archéologique d'Olympie. sanctuaire antique où tous les 4 ans pendant 10 siècles, les athlètes du bassin méditerranéen venaient se défier dans le culte de Zeus. Mais savez-vous pourquoi une partie des épreuves olympiques consistait à courir? Autrement dit, d'où vient la course à pied?
À l'origine, c'est dans le chant 23 de l'Iliade qu'on trouve ça, on court pour offrir sa force à un mort. Le culte olympique est à l'origine un culte autour du tombeau de Pélops. Quand Patrocle, je reviens à l'épopée d'Homère, quand Patrocle meurt, on offre à Patrocle, avant de le brûler sur le bûcher, on offre, alors on coupe des cheveux, les Achéens coupent leurs cheveux et les offrent, et ensuite il y a des jeux funèbres, c'est-à-dire que l'effort, le meilleur que le vivant puisse offrir, c'est-à-dire son effort qui l'amène à se surpasser, est en fait offert à un mort. On offre de la vie aux morts. De toute façon, lorsque, encore aujourd'hui, les gens vont poser un pot de chrysanthème sur une tombe, ils offrent de la vie florale à un mort. Voilà à l'origine ce que c'est qu'un exploit athlétique.
Jean-Manuel Rubino, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez l'histoire ancienne à l'université. Il faut commencer par dire, Jean-Manuel, combien le sport sous l'Antiquité, en effet, est avant tout une affaire du religieux. Alors, soit elles sont une procession funéraire, soit une célébration divine, mais c'est un aspect essentiel du sport dans la civilisation antique.
Alors, oui, les concours sont effectivement le plus souvent insérés dans une fête en l'honneur d'une divinité. Ça, c'est vrai durant toute l'Antiquité. Et oui, les toutes premières compétitions qui soient connues de nous par des textes, à travers l'Iliade, à travers l'Odyssée notamment, sont ce qu'on appelle des concours funèbres. Le meilleur exemple, c'est le concours funèbre en l'honneur de Patrocle, l'ami d'Achille. Mais on a aussi déjà à cette époque-là des affrontements athlétiques qui ne sont pas liés directement à un rituel funéraire, comme par exemple dans l'Odyssée le combat de boxe des mendiants entre Ulysse et et Hyros, son rival en mendicité. Tout ça pour dire que je crois qu'il faut pas surestimer le poids de la religion dans les activités athlétiques. Il y a un cadre religieux à ces activités athlétiques, de même qu'il y a un cadre religieux au théâtre, au concours théâtraux, où il y a un cadre religieux au banquet. Mais quand un coureur prend le départ d'une épreuve de sprint à Olympie, il ne pense pas spécialement à Zeus, il pense à pousser fort sur les appuis et être le premier à franchir la ligne.
Violaine Bonneuil-Écoe, vous êtes écrivaine, passionnée de civilisation antique. Donc les Jeux Olympiques avaient lieu tous les 4 ans à Olympie à partir de 776 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Pour bien faire écho à cette dimension religieuse, malgré tout, que trouve-t-on à Olympie au 8e siècle avant Jésus-Christ?
Vous voulez parler des monuments?
Absolument.
Oui, parce que bon, alors il y a des temples bien sûr à l'intérieur d'Olympie. Bon, aujourd'hui Olympie est quand même très très dégradée parce qu'il y a eu des tremblements de terre successifs à cet endroit malheureusement. Mais enfin, on a retrouvé quand même les vestiges et les bases d'un temple de Zeus. À l'intérieur du temple de Zeus, une des 7 merveilles du monde, la grande statue de Zeus créée par Phidias. Et puis, on a des temples des rats, bon, qui étaient donc la parèdre de Zeus pour les jeux féminins, parce que les jeux masculins avaient eu lieu en juillet, pardon, mais les jeux féminins, qu'on oublie souvent, avaient lieu en septembre. Ils n'avaient pas lieu en même temps, voilà. Donc, à chaque fois, effectivement, il y avait des processions pour vénérer les dieux avant les jeux et à l'issue des jeux.
Jean-Manuel Rubino, ces jeux avaient lieu donc tous les étés, en juillet ou en septembre. Ils se déroulaient, si je dis pas bien, sur 5 jours, de manière assez rituelle. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots à quoi correspondaient ces 5 jours de Jeux Olympiques?
Oui, alors ils avaient lieu une fois tous les 4 ans. Alors ce programme, en fait, il a évolué au fil des siècles. C'est-à-dire qu'un spectateur au 5e siècle avant Jésus-Christ ou un spectateur au 2e siècle après n'aurait pas assisté tout à fait à la même compétition.
Ça fait 5 siècles d'écart quand même, donc c'est normal.
C'est normal, ça bouge. Hein. Oui. Mais donc les temps principaux, le premier jour, en fait, est un jour de préparation, c'est-à-dire que les athlètes prêtent serment, ainsi d'ailleurs que leur père, leur frère et leurs entraîneurs. Ils prêtent serment de s'être entraînés pendant 10 mois. chinois avant le concours et il prête serment de concourir dans les règles. Mmh. C'est aussi lors du premier jour qu'a lieu l'examen des athlètes, c'est-à-dire les magistrats décident dans quelle catégorie d'âge les athlètes ou les attelages ou les chevaux vont pouvoir concourir. Il ne se passe rien de plus. Et puis le deuxième jour a lieu la première série d'épreuves. Donc c'est d'abord les épreuves hippiques et puis c'est la compétition de pentathlon. Mmh. Le troisième jour est un jour en fait consacré intégralement à des rituels. Et donc il y a une série de rituels, le principal étant ce qu'on appelle le grand sacrifice pour Zeus, hein, puisque les concours olympiques sont des concours qui sont principalement en l'honneur de Zeus Olympios, Zeus olympique. Et puis le quatrième jour,
il y a aussi ce qu'on appelle l'hécatombe. C'est bien ça. C'est quoi l'hécatombe?
Alors une hécatombe, techniquement, c'est un sacrifice de 100 bœufs, comme étymologiquement son nom l'indique. Voilà. Si ce n'est en fait que c'est un nom d'usage, c'est-à-dire que la plupart du temps, on sait que ce n'était pas 100 animaux qui étaient véritablement sacrifiés, mais le nom est resté ensuite dans l'usage dans la langue grecque pour désigner un sacrifice particulièrement important, mm-hmm. Destiné à un rituel auquel on veut donner une magnificence particulière.
Donc troisième jour, hécatombe, banquet. Et quatrième et cinquième jour, alors, que se passe-t-il?
Alors, quatrième jour, les épreuves restantes, c'est-à-dire les trois épreuves de course, et puis ce qu'on appelle les épreuves lourdes, c'est-à-dire la lutte, la boxe ou le pugilat, si vous voulez, et mm-hmm. le pancras, et puis qui est une combinaison de lutte et de boxe, et puis dernière épreuve, la course en armes, donc une course d'hoplite, si vous voulez, qui marquait en fait la fin de la trêve, symboliquement, et c'est pour ça qu'elle était placée en dernier dans la liste des épreuves, elle était censée marquer le temps du retour, si on peut dire les choses ainsi, à la guerre. Et puis il y a un cinquième jour. Oui, pardon.
Allez-y, je vous écoute.
Ah pardon. Et donc il y a un cinquième jour durant lequel ne se déroule en fait qu'un événement qui est le banquet en l'honneur des vainqueurs.
Mm-hmm. Violaine, on vient d'entendre le mot trêve. Ça c'est important. Donc oui. Dans les semaines qui précèdent les Jeux Olympiques.
Je voudrais quand même revenir parce que il faut quand même voir qu'au tout début il n'y a qu'une épreuve. Mm-hmm. C'est l'épreuve de la course du stade, qui est la course à pied rapide, on va dire, de la grandeur du stade à l'époque, mmh. donc près de 200 mètres, et qui est resté finalement, c'est important, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la course à pied, les courses courtes, on va dire, ça reste quand même des épreuves vraiment que l'on attend.
Oui, bien sûr, beaucoup le 100 mètres, le 200 mètres, voilà. Bien sûr.
Donc il n'y avait qu'une course à l'origine. Mmh. Et là aussi, c'est symbolique, et c'est lié aux dieux, c'est-à-dire que le fait de frapper le sol, d'être en contact avec le sol, permettait à l'athlète d'être en contact avec les dieux aussi, ça c'est très important. Après, bon, effectivement, il y a eu un déroulement, on va dire, traditionnel à l'époque classique qui vient d'être évoqué. Mais très rapidement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions. Hein. Des épreuves qui ont disparu, des épreuves qui sont nées, comme par exemple des courses d'ânes, mm-hmm. et qui ont disparu rapidement, parce mm-hmm. qu'on n'a pas aujourd'hui de courses d'ânes. Donc, une évolution qui a été très rapide. La trêve sacrée, effectivement, normalement, doit avoir lieu dès que les athlètes quittent leur propre cité. Athlète étranger après, et au début, athlète essentiellement.
Pour venir à Olympie.
Pour venir à Olympie. Alors, le parcours est long, parce que quand vous venez par la mer, il y a les pirates, donc vous n'êtes pas sûr d'arriver. Et quand vous venez par la terre, eh bien, il faut marcher, enfin, on est à dos d'âne, sur quand même des kilomètres et des kilomètres. Donc, à partir du moment où les athlètes quittent leur ville, on va dire, eh bien, normalement, il doit y avoir trêve sacrée dans le monde entier. Vous imaginez bien, plus de guerre, où toutes les guerres s'arrêtent. Mmh. Mais vous imaginez bien que ça n'est jamais arrivé. Ça, c'est une utopie.
Oui.
Bon, toujours est-il que effectivement cette trêve sacrée existait, et comme le disait l'interlocuteur précédent, et il a raison, la course d'hoplite donc toujours arrivait en dernier parce que c'était des athlètes qui étaient complètement nus, mais qui étaient armés avec des boucliers, avec des casques et des jambières, et qui couraient. Et donc c'était effectivement le symbole que les conflits pouvaient éventuellement reprendre. Voilà.
Jean-Manuel, un mot.
Oui, sur la trêve sacrée, en fait, ce que dit Madame Van Ooyek, en fait, est une idée qui effectivement a été véhiculée pendant très longtemps dans les manuels d'histoire du sport antique. On sait aujourd'hui, en fait, que la trêve consistait en deux aspects. D'abord, c'était un sauf-conduit dont bénéficiaient les athlètes et les spectateurs qui venaient à Olympie, mais non pas au moment de leur départ. La trêve sacrée prenait effet quand une cité donnée avait reçu les ambassadeurs qui la proclamaient. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'athlète ou en tant que spectateur, si vous traversez traversiez le monde grec et que vous passiez par une cité où la trêve sacrée n'avait pas été encore proclamée à l'assemblée, eh bien vous étiez susceptible d'être saisi. Par ailleurs, je dois corriger un deuxième élément qui est qu'il n'y a absolument pas de paix mondiale à l'issue de la trêve sacrée. Les seuls conflits qui sont interrompus en raison de la trêve sacrée sont les conflits avec la cité organisatrice. Mmh. C'est-à-dire que quand la trêve sacrée est proclamée, le territoire de la cité organisatrice devient inviolable. Il est interdit de poursuivre un conflit qui avait lieu avec cette cité. Donc en gros, la trêve sacrée, ça sert essentiellement à protéger les athlètes et les spectateurs.
Mais ça change rien à ce que j'ai dit et ce qui est dans les textes.
Justement, alors cette trêve sacrée, est-ce que c'est le cas? Est-ce que le baron Pierre de Coubertin, qui a été profondément marqué par la guerre de 1870 et par la défaite française, on dit qu'une des raisons qui a motivé le baron Pierre de Coubertin pour relancer les Jeux Olympiques de l'ère moderne, se nichait dans cette idée de trêve olympique. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était peut-être la paix des peuples. Alors il y a aussi une dimension de prôner l'éducation physique dans les jeunesses européennes, puisqu'il prônait, disait-il, le retour du sport, parce que ce sport avait été si important dans l'éducation des Grecs sous l'Antiquité, des jeunes Grecs sous l'Antiquité. Alors est-ce que tout ça est une vision biaisée d'aujourd'hui, Jean-Marie Rubineau? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose de juste dans cette histoire?
Oui, alors sur l'idéal pacifiste, effectivement, ça c'est, hein, je dirais, c'est une antiquité ventriloque. Hein, donc le Pierre de Coubertin et le mouvement olympique moderne, on fait beaucoup dire au sport antique beaucoup de choses que le sport antique ne disait pas. Alors c'est vrai l'idéal pacifiste qui n'existe pas dans l'Antiquité. C'est vrai l'idéal amateur aussi qui n'existe absolument pas dans l'Antiquité. Les athlètes aspirent à gagner des prix et beaucoup d'entre eux gagnent beaucoup d'argent dans le cadre des compétitions. Après, y a ce que vous dites ensuite sur la question de l'éducation des jeunes Grecs. Alors ça c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que effectivement le sport occupe une place importante dans l'éducation normale d'un jeune grec, en tout cas d'un jeune grec issu d'une famille qui a les moyens de lui payer une éducation. Il y a ce qu'on appelle le triptyque éducatif, qui est, on va dire, la base éducative des petits garçons grecs, qui est fait d'une éducation aux lettres, à la musique et au sport. Donc le sport est un des trois éléments fondamentaux de l'éducation des petits Grecs.
Violaine, on parle d'Olympie, là, depuis 10 minutes, mais il y a d'autres jeux sportifs sous l'Antiquité. Il y en a à Némée, à Corinthe, à Delphes. En quoi ils se distinguent? Ils sont identiques? Ils sont vraiment différents les uns des autres?
Moi, j'apporte aussi une petite pierre à ce qui vient d'être dit.
On s'enrichit les uns des autres. Allons-y.
Bien sûr, le sport est absolument nécessaire dans la culture antique, on va dire, mais on voit quand même des différences dans les programmes, on va dire, et selon les années, et les réactions aussi des philosophes ou des historiens qui sont un petit peu différentes. Tantôt, on prône le sport et on le met davantage en avant, et puis tantôt, on revient quand même à quelque chose qui est beaucoup plus culturel, on va dire, dans les programmes. Bon, ben ça, c'est un petit détail. Alors, en ce qui concerne les Jeux, bien sûr, puisque les Jeux Olympiques avaient lieu tous les 4 ans, on ne restait pas inactif pendant les autres années. Hormis un tas d'autres concours qui avaient lieu dans différentes villes, eh bien, il y avait effectivement donc les Jeux Néméens qui avaient lieu à Némée, comme son nom l'indique, dans le Péloponnèse. Il y avait les Jeux Ismiques qui avaient lieu à Corinthe, et puis il y avait les Jeux Pythiques, donc qui avaient lieu à Delphes.
Voilà. Mais c'est le même procédé qu'Olympie?
Alors En gros, on va dire, c'est à peu près le même procédé qu'Olympie. C'est à peu près les mêmes épreuves. On retrouve à peu près les mêmes épreuves. Avec, à chaque fois, quelque chose à laquelle je tiens particulièrement et que j'aimerais bien, à la limite même, que ce soit restauré. Et en 2004, puisque vous avez fait votre introduction sur les Jeux d'Athènes, de 2004 à Athènes, eh bien ça avait été longuement évoqué, c'est le retour des concours dramaturgiques et musicaux à l'issue des Jeux athlétiques. Car à la limite, quand même, c'est l'Esprit Saint dans un corps saint, si on revient totalement aux Jeux antiques. Et il serait bien, finalement, de revenir aussi à des concours qui viennent artistiques, qui viennent compléter les concours athlétiques.
Jean-Manuel Rubineau, ces Jeux olympiques antiques ont duré 10 siècles, ce qui est quand même... c'est 1000 ans d'histoire, c'est beaucoup, avec beaucoup d'évolutions, certes, mais ça reste une continuité de 10 siècles d'affilée. En 393 de notre ère, l'empereur romain Théodose va supprimer ces Jeux olympiques, ces Jeux antiques. Qu'est-ce qui motive sa décision ?
Alors, en fait, c'est un petit peu comme l'idéal pacifiste. C'est une idée qui a été effectivement très très présente dans les travaux d'histoire du sport antique pendant longtemps. On sait aujourd'hui en fait que les concours olympiques ne s'achèvent pas en 393. Ah. On a un texte qui témoigne du fait que il y a encore des concours au moins en 399. Mm-hmm. Et on a deux autres textes qui nous indiquent en fait quand ils se sont achevés en fait à l'issue, enfin comment dire, après l'incendie accidentel du temple de Zeus, alors non pas sous Théodose premier, mais mm-hmm. sous son petit-fils Théodose II. Donc on est, alors je pourrais pas vous donner de date, oui Théodose II, oui. Mais je pourrais pas vous donner de date exacte, mais on est dans les années 420-430 à peu près.
D'accord.
D'une certaine manière, si vous voulez, le modèle d'analyse sur la fin des concours olympiques était pendant longtemps un modèle, on va dire, top-down, l'empereur qui décide de la fin des concours olympiques. Aujourd'hui, il est plutôt remplacé par un modèle qu'on appellerait en novlangue bottom-up, c'est-à-dire que on considère que c'est la désaffection des Grecs progressive pour les concours athlétiques au bénéfice d'autres types de divertissement qui en fait a engendré progressivement la désagrégation du phénomène sportif. Donc les concours olympiques disparaissent. Donc on parle bien des concours à Olympie hein, mm-hmm. au début du 5e siècle. Mais on a trace de compétitions sportives dans d'autres zones géographiques du monde grec jusqu'au 6e siècle. Hein.
D'accord. Et est-ce que ces Jeux olympiques Jean-Marie Rubineau, ont une dimension d'unification du monde grec. Parce que je vous entends, on parle de désaffection des concours sportifs, mais il faut quand même rappeler que cet univers grec, il est composite, c'est une mosaïque de cité-état. Est-ce que ces Jeux olympiques ont eu une dimension de partage culturel, de partage religieux ? En gros, j'appartiens au même monde. Je suis une cité grecque, mais j'appartiens à un monde qui me dépasse. Est-ce qu'elles ont eu cette vertu ? Est-ce qu'ils ont eu cette vertu-là, ces Jeux olympiques ?
Oui, absolument. Il y a une vertu unificatrice. Les Grecs considéraient le sport et certains types et aspects du sport grec comme une singularité culturelle qui les différenciait des barbares. Et c'est un peu le paradoxe du sport grec puisque il existait, je dirais, de manière parallèle dans de très nombreuses cités, dans des centaines de cités, sans qu'il y ait de fédération centralisée. Il n'y avait pas de comité international, si vous voulez, qui organisait tout ça. Et pourtant, les disciplines sont les mêmes ou presque les mêmes avec de petites variations. Qu'on aille assister à un concours à Alexandrie, à Éphèse en Asie mineure, à Épidaure ou à Argos, on retrouve les mêmes disciplines. Et donc les Grecs ont le sentiment de participer de quelque chose qui leur est commun. Alors il y a des particularités, c'est-à-dire que et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de record dans l'Antiquité. Une des particularités, c'est que chaque discipline se fait avec les unités de mesure de la cité locale. Donc le stade d'Olympie, il fait 600 pieds, mais sauf que ce ne sont pas les mêmes 600 pieds que le stade de Delphes. Autrement dit, quand vous courez le sprint à Olympie, eh bien, il fait à peu près 192 mètres, alors que quand vous courez le sprint à Delphes, il fait 178,50 mètres. Donc, autrement dit, on peut pas comparer les performances d'une compétition à l'autre, dans le sens où ça n'est jamais tout à fait la même épreuve qui est accomplie.
D'où aucun record, en effet, mentionné ou noté ou on va dire compulsé. Il y a pas de mesure non. Finalement sous l'Antiquité des exploits sportifs. Violaine, il y a aussi une dimension politique, j'ai envie de dire, à ces rassemblements. Il faut imaginer que à Olympie, parfois 40 000 personnes sont sur place pendant ces Jeux Olympiques, ce qui à l'époque est énorme, 40 000 personnes. C'est aussi du coup une opportunité pour des tribuns.
Bien sûr, c'est des gens qui arrivent de partout, des marchands, des politiques, tout le monde, et qui s'installent. Alors ils ne sont pas tous installés évidemment confortablement, mais ils s'installent dans la plaine d'Olympie. Et donc il y a évidemment une dimension politique. Alors il y a deux choses. Il y a d'abord les athlètes qui trouvent l'opportunité, quand ils sont vainqueurs, de faire une carrière politique, mais qui n'y avaient pas pensé auparavant. Et puis, inversement, il y a des politiques qui voudraient s'illustrer pendant les Jeux Olympiques, pour montrer justement la grandeur de leur cité. Alors il n'y a pas que les politiques d'ailleurs, il y a les hommes connus, on va dire les personnalités, écrivains ou autres, et qui ont envie de se montrer à Olympie. À un moment donné, on se montre, on doit se montrer à Olympie, quelquefois même éventuellement accompagné, vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça devient véritablement un événement très important, surtout quand ce n'est plus essentiellement les cités grecques qui participent, mais les pays du monde connu.
Jean-Manuel Rubineau, on vous écoute.
Oui, je voulais juste dire, en plus de tout ce que vient de dire Madame Van Rijck, que les concours olympiques, mais aussi ISMIC, PITIC, NEMEA, sont aussi un moyen d'assurer la publicité à de grandes décisions ou grandes déclarations politiques. Par exemple, en 189 avant Jésus-Christ, on a un général romain qui s'appelle Flamininus, qui vient assister au concours ISMIC pour proclamer la liberté des cités grecques. Autrement dit, quand on veut s'adresser à tout le monde grec et qu'on a un romain ou un macédonien, c'est la même chose, eh bien, on peut se rendre à une compétition. Et on a le sentiment, en faisant sa proclamation à l'occasion de la compétition, qu'on s'adresse en fait à tous les habitants de toutes les cités du monde grec.
Alors après les Jeux Olympiques, on va s'intéresser dans une seconde partie aux athlètes antiques. Mais pour l'instant, on va faire une pause musicale avec un titre qui nous arrive des étendues glacées de l'Ontario. Nous sommes très loin de la Grèce. Il s'appelle Mustapha, dit le poète. Il est doué, il est très doué. Le titre dans le jukebox, Air Forces.
Happening outside. You say it's okay, but you touch your chain. Like if they take it, I won't see you for a while. And I tell you how I feel, in case it's the last time. You know the odds, you know the flaws, it's all about design. And you go anywhere.
Quand les Olympiades débutent au 8e siècle avant Jésus-Christ, la course se fait pieds nus et le départ debout. Le saut en longueur s'effectue avec des poids aux mains qui donnent plus d'inertie à l'athlète.
Philippe Collin.
La boxe n'utilisait pas de gants, mais des lanières de cuir qui rendent les frappes beaucoup plus dures. Plus violent, le pancrace est un corps à corps à mort où tous les coups sont permis, sauf crever les yeux.
Sur France Inter.
Pendant plus de 10 siècles, jusqu'au début du 5e siècle de notre ère, les Jeux helléniques se sont tenus comme un rituel immuable à travers le bassin méditerranéen. Ces Jeux d'Olympie, de Corinthe ou de Delphes prenaient vie à travers la figure héroïque de l'athlète. Le vainqueur de chaque épreuve se voyait ceindre le front d'une couronne de feuillages, lauriers ou oliviers, qui fut en réalité la plus haute récompense attribuée dans le monde grec. Elle garantissait à celui qui la recevait l'honneur et le respect de tous. À la manière de Timos, vainqueur olympique, récit de la popularité des athlètes antiques, sous la plume du merveilleux Maurice Genevoix en 1924.
Ils ont vu les coureurs du stade tendre d'un seul envol vers la ligne d'arrivée, et ceux du double stade, partis à la tribune d'honneur, tourner à la barrière en serrant la borne de près, puis s'élancer encore avec une ardeur ranimée, et ceux de la longue course, infatigablement, 6 fois passer et revenir. Ils ont vu les lutteurs enlacés, leurs muscles se gonflant sous la peau frottée d'huile, glissant et s'insinuant avec des souplesses couleuvrines. Et le soleil, toujours, brillait sur leur groupe pathétique, en baignait l'étroite harmonie, suscitait sans relâche à sa vive clarté les reflets d'une ardeur profonde. Ils ont vu les pugilistes se frapper de leurs poings terribles, leurs visages saignés sous les calottes de métal, et des frissons sauvages à l'aspect du sang rouge glaçait et durcissait leurs reins. Puis s'affrontaient les pancrasiastes avec des bonds attentifs et brutaux, des doigts ouverts, cherchant les gorges, des étreintes obliques, des torsions de membres craquant, des colères courageuses et muettes. Les flûtes résonnaient, accompagnant les sauts des pentathlètes. Les disques de bronze fendaient l'air, les javelots se plantaient dans la cible, et leurs rampes longtemps tremblaient. Sur les talus glissait la course lente du soleil dans la chaleur torride. La foule criait vers les athlètes, parfois, ça et là, un délire d'enthousiasme soulevait tout un peuple à la victoire de ses champions.
Voilà, je ne vois, ça envoie. Jean-Manuel Rubino, vous êtes historien et entre autres l'auteur d'une excellente biographie consacrée à Milon de Crotone, un grec italien, athlète exceptionnel du 6e siècle avant Jésus-Christ, détenteur de nombreux lauriers olympiques, cet athlète. En quelques mots, Jean-Manuel, qui était-il, ce Milon de Crotone?
Alors Milon, il est considéré en fait dès l'Antiquité comme le plus grand de tous les athlètes, aux yeux des Grecs comme aux yeux des Romains. Et il est en fait resté à cette place dans la mémoire collective occidentale jusqu'au début du XXe siècle. Donc aujourd'hui, son nom en fait est beaucoup moins dans les mémoires, mais jusqu'aux années 20-30 du XXe siècle, il l'était. Vous parliez de l'ouvrage de Maurice Genevoix, Vaincre Olympie, publié en 1924. Mais 1924, c'est l'année des Jeux Olympiques de Paris. Et il y a une planche de timbre qui est éditée pour commémorer l'événement. Et sur un des quatre timbres qui constitue cette planche est à l'effigie de Milon de Crotone. 10 ans plus tard, en Australie, il y a un chimiste qui a développé une boisson énergisante qui a été depuis commercialisée par Nestlé, qui est encore en vente aujourd'hui dans les pays anglo-saxons et latino-américains, et qui s'appelle Milo, Milon.
Ah oui, d'accord.
Alors, qui a existé en France jusqu'aux années 80 et qui a disparu aujourd'hui à la fois des étals et puis des souvenirs. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il a été considéré pendant très longtemps comme le plus grand de tous les athlètes. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est son palmarès. Il a accumulé un nombre incalculable de titres olympiques et puis aussi de titres dans les autres grandes compétitions. Il a été ce qu'on appelle le premier périodonique de l'histoire du sport, c'est-à-dire qu'il a réalisé l'équivalent du grand chelem, si vous voulez, appliqué à sa discipline, c'est-à-dire qu'il a enchaîné les concours olympiques, pythiques, ismiques et néméens, dans sa spécialité qui était la lutte. Et puis on lui prête aussi une série d'exploits, notamment le fait d'avoir porté sa statue jusqu'à sa base dans l'enceinte d'Olympie, ou d'avoir consommé un bœuf en un seul repas.
Oui.
Alors tous ces exploits, ils sont invraisemblables, hein, mais en fait ils sont la traduction outrée, légendarisée, si vous voulez, d'exercices d'entraînement au gymnase. Et puis pour finir sur Milon, la dernière raison peut-être de sa célébrité, c'est qu'il il a témoigné à sa manière du lien très étroit qu'il y avait dans l'Antiquité entre le sport et la guerre, hein, puisqu'il a dirigé la phalange de sa cité, donc sa cité Crotone, qui était une cité grecque d'Italie du Sud. Il a dirigé la phalange de sa cité en 510 dans la guerre qu'il opposait à sa voisine Sybaris et que Crotone a emporté. Et donc il avait une forme de synergie entre la condition d'athlète et la condition de soldat et éventuellement de chef de guerre pour un champion.
Jean-Manuel, votre biographie est sous-titrée « Ou l'invention du sport ». Milon de Crotone, ou l'invention du sport. Vous l'expliquez très bien d'ailleurs à travers ce récit. Est-ce que vous pouvez ce soir en quelques mots expliquer rapidement, malheureusement, à nos auditeurs pourquoi ce sous-titre ?
Ben parce qu'il y a, en fait, à travers le cas de Milon, l'idée était d'observer plusieurs phénomènes qui apparaissent au VIe siècle. Il y a une forme de révolution sportive, en fait, qui a différents aspects. D'abord, c'est le moment où apparaît l'entraînement régulier, le fait d'aller au gymnase tous les jours pour s'entraîner et pratiquer des exercices adaptés à la discipline dans laquelle on s'est spécialisé. Ben, ça apparaît à ce moment-là. De la même manière, avec Milon, on peut voir apparaître le principe de la diététique athlétique. Il est un des tout premiers athlètes à suivre un régime essentiellement à base de viande et aussi de pain sans levain, de pain azyme, parce que les Grecs à ce moment-là sont convaincus que la viande est une source de force. Et puis Milon plus largement témoigne en fait d'un phénomène dans les cités, c'est-à-dire que apparaît alors la figure sociale de l'athlète. On se met à composer en l'honneur des champions des poèmes, on leur érige des statues, on leur vote des privilèges, on peut les nourrir aux frais de la cité s'ils ont remporté un titre dans une compétition majeure. Autrement dit, dans le courant du VIe siècle, les athlètes, et Milon en est le premier exemple, je dirais vraiment tangible, qu'on puisse étudier de près, au VIe siècle, on voit comment les cités se mettent à accorder une place de plus en plus grande aux athlètes.
Violaine Bonnoyec, on parle d'un homme, Milon de Crotone, un grand athlète antique.
J'en ai parlé dans tous mes bouquins.
Absolument,
d'ailleurs,
j'imagine bien. Où sont les femmes athlètes? Vous en avez parlé tout à l'heure des jeux féminins, mais est-ce qu'elles ont le droit de participer à des concours sportifs? Est-ce qu'elles sont autorisées à accéder aux tribunes, par exemple, à Olympie? Quelle est la place de la femme dans ces Jeux Olympiques?
Alors, comme je vous l'ai dit, donc les Jeux féminins avaient lieu à Olympie, en septembre. D'abord parce qu'il faisait moins chaud, et la course du stade, elles étaient censées courir uniquement faire l'épreuve de la course du stade, qui était réduite, parce qu'on estimait que les femmes peut-être n'avaient peut-être pas la même force que les hommes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, de se tourner non pas sur les textes, parce que les textes ne nous apportent pas grand-chose, mais vers l'iconographie, qui nous a révélé quand même que les femmes, notamment animées, participaient donc à des courses de chars, qu'elles pouvaient être cochées, et non pas seulement propriétaires d'un attelage d'ailleurs. Donc leur entraînement paraît même être quotidien. Quand on voit par exemple des représentations, des rares représentations d'athlètes féminines de l'époque, sont extrêmement musclées, donc on voit bien qu'elles ont un entraînement régulier. Mmh. Il y a des femmes qui sont restées célèbres, comme par exemple la compagne de Ptolémée II, Philadelphe, qui a été championne olympique. Manifestement, la place des femmes et le sport féminin en général était beaucoup plus présent dans l'Antiquité qu'on l'a cru pendant très longtemps.
Jean-Manuel Robineau, un mot.
Oui, deux petits mots. Le premier, c'est sur la question de ces épreuves féminines. En fait, ce qu'on sait, ce que la documentation nous dit, c'est que il existait des épreuves non pas pour des femmes, mais pour des jeunes filles, et non pas à Olympie, mais à Argos. C'est sous ce qu'on appelle les Héraïa, donc les compétitions en l'honneur d'Héra. Donc, c'était pas exactement à Olympie, mais c'était dans une compétition, je dirais, d'envergure majeure aussi, à Argos. Et ça, en fait, techniquement, ça ne concernait pas des femmes au sens où un Grec l'entendrait, c'est-à-dire pas des femmes mariées qui auraient eu des enfants, mais des jeunes filles avant leur mariage. Et ceci explique probablement cela, c'est-à-dire que tant que la jeune fille n'est pas pensée culturellement comme une femme, elle peut, sous certaines conditions et circonstances, pratiquer des formes d'exercice physique. On le sait notamment à travers le cas des jeunes filles à Sparte.
Violaine.
Oui, mais des épreuves féminines, si vous voulez, on sait qu'il y en avait dans des concours moins importants. Là, on est quand même sur les concours principaux et sur Olympie ou l'équivalent Némée. Et donc là, maintenant, nous avons la preuve avec les découvertes que nous avons faites qu'elle participait quasiment aux mêmes épreuves, c'est-à-dire javelot, disque, lancement du disque, éventuellement combat de boxe et les courses de chars qui demandent quand même une force extraordinaire. Donc là, on est quand même dans quelque chose de tout à fait nouveau.
Jean-Manuel, je reviens deux secondes à Milon de Crotone parce qu'il incarne aussi quelque part la prétention et le danger de vouloir dépasser la condition humaine dans une période où on n'arrête pas de vouloir, aujourd'hui j'entends, défier les limites du corps physique, de vouloir défier les records. La fin de Milon de Crotone est-elle juste, est-elle réelle d'ailleurs, Jean-Manuel Robineau, sa mort raconte quelque chose de symbolique quand même sur le héros athlétique qui voudrait dépasser sa condition humaine.
Oui, il est effectivement régulièrement utilisé, Milon, comme un exemple de déraison ou de démesure, ce que les Grecs appellent l'hubris. Et effectivement, c'est le récit que les anciens ont fait de sa mort en est une bonne illustration. Donc la légende dit que Milon serait mort dévoré par des loups, qu'il aurait une meute de loups qui l'aurait surpris, donc il était dans une forêt près de Crotone, qui l'aurait surpris, coincé, les mains coincées dans la souche d'un arbre, qu'il essayait de finir de fendre avec la seule force de ses mains. Et donc c'est typiquement un exemple de mort symbolique qui est censé exprimer la démesure, la folie, l'ambition démesurée du champion. D'autant plus symbolique que Milon est probablement mort en fait dans des circonstances tout à fait différentes, dans l'incendie criminel de sa maison. Il faisait partie de la communauté pythagoricienne. Hein. Il était le gendre, le mari d'une des filles de Pythagore, et il a été victime d'un attentat en fait en direction de la secte pythagoricienne. Donc, ce qui est intéressant en fait avec les récits de sa mort, c'est qu'en fait ils traduisent précisément ce rapport double qu'avaient les anciens avec les champions, à l'égard des champions. D'un côté, il y avait un rapport d'admiration. Les athlètes étaient regardés, et notamment les meilleurs d'entre eux, comme des surhommes. Et d'un autre côté, il y avait un rapport de méfiance, parce que c'était des individus qui étaient soupçonnés de vouloir s'affranchir de la condition humaine.
Violaine, un mot.
Oui, ce qui est important, enfin bon, parce que ça a été évoqué justement tout à l'heure, si je puis élargir, allez-y. Parce que ça me semble intéressant, c'est l'apparition des nutritionnistes et des médecins, notamment vers le IIIe siècle, puisque on arrive vraiment à un professionnalisme dans le milieu sportif et quelque chose qui est de plus en plus organisé, avec des arnaqueurs bien sûr aussi qui arrivent. Hein. Et donc, nous avons parlé dans la nutrition des régimes carnés, concernant Croton, justement. Hein. Et c'est vrai qu'il ingurgitait beaucoup de viande. Bon. Mais ces régimes ont touché également les coureurs, comme des coureurs comme Astylos de Croton, qui était lui aussi extrêmement célèbre, et qui, alors lui, ne devait manger que des bouillies, des légumes ou des fruits. Et il y a eu, on a retrouvé des cas de procès assez nombreux de ces coureurs qui arrivaient sur le stade complètement exsangues, enfin on va dire, et qui s'écroulaient, et quelquefois qui mouraient. Donc, on a retrouvé, c'est intéressant de voir combien ces pseudo-nutritionnistes, finalement, auxquels les sportifs avaient affaire, eh bien, étaient quelquefois tout de même suivis et condamnés.
En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus ce soir tous les deux. Je rappelle que vous pouvez lire l'excellente biographie de Milon de Croton, athlète antique, signée Jean-Manuel Roubineau. C'est publié aux Presses universitaires de France. C'est une lecture passionnante. Vous pouvez aussi vous procurer, bien sûr, les premiers Jeux olympiques de Violaine Van Hayek. Je l'ai bien prononcé.
Mais bien, mais
magnifique,
très bien.
Merci beaucoup. C'est un livre disponible aux éditions Suto. Merci beaucoup à vous deux. C'est passionnant de vous écouter. Le temps nous est malheureusement compté, mais ce sera. Vous reviendrez tous les deux pour nous raconter la suite.
Ah ben volontiers, Philippe. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous. Nous allons maintenant passer donc à la victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minanzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Ce soir, un échiquier. Bonsoir Pierre-Étienne.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, quel est le programme ce soir ?
Eh bien, sur une idée originelle de mon oncle François, que je salue,
très bien.
Je vais vous parler des échecs, qui sont revenus à la mode, notamment grâce au succès dément du Jeu de la Dame, la série la plus regardée de l'histoire de la plateforme Netflix. D'ailleurs, les plateaux à damiers connaissent actuellement des ventes records en France.
Alors c'est très intéressant, mais je ne vois pas le rapport avec votre chronique qui, je le rappelle, est censée décrypter les rapports entre le sport et la musique.
Si l'on admet que les échecs sont un sport cérébral certes, mais enfin un sport, eh bien il n'existe sans doute aucune autre discipline sportive qui a été autant mise en musique à travers les siècles. Selon le magazine de la Fédération Française des Échecs, la plus lointaine référence musicale à ce jeu date de 1607, quand avait été créé un ballet des échecs sur lequel avait dansé le futur roi Louis XIII. Alors bon, sans remonter aussi loin, je vous propose d'écouter trois chansons originales dans lesquelles il est question de ce jeu millénaire.
Alors allons-y, quel est le premier morceau que vous souhaitez nous faire partager ?
C'est un tube mondial de l'année 1986. One Night in Bangkok, du chanteur anglais Murray Head. Ce titre évoque l'activité nocturne de la capitale thaïlandaise au moment où s'y déroule un championnat du monde d'échecs. Car One Night in Bangkok s'intégrait dans une comédie musicale, Chess, qui mettait en scène les tensions de la guerre froide à travers des parties d'échecs acharnées opposant deux grands maîtres, un américain et un soviétique. Bangkok, Oriental sitting in the city down. De la crème of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok and the world's gone.
Je l'avais oublié celui-là, Wild Night in Bangkok. C'est original en effet, Pierre-Étienne. Alors quel est le deuxième titre que vous avez sélectionné ?
Eh bien Philippe, j'ai pris en compte votre côté fleur bleue en choisissant un morceau de 2010, écrit par une chanteuse pop à succès, l'américaine Taylor Swift. Dans Dear John, elle raconte sa relation ombrageuse avec son ex-petit ami, le compositeur John Mayer. Et pour illustrer les difficultés qu'elle avait traversées, Taylor Swift use dans ses paroles d'une métaphore parlante. « Je vivais dans ton jeu d'échecs, dont tu changeais les règles tous les jours. » On écoute.
Ça, c'était Taylor Swift. Et alors, quel est le dernier morceau évoquant les échecs que vous avez retenu, Pierre-Étienne ?
Eh bien, c'est une de mes chansons préférées de tous les temps.
Ah, carrément.
Dont j'ignorais, avant de préparer cette chronique, qu'elle parlait des échecs.
Eh ben.
Il s'agit de Deep Blue, un morceau de 2010, signé du groupe de rock canadien Arcade Fire.
Ah.
J'avais beau l'avoir écouté une centaine de fois, je n'avais jamais fait attention au fait que les paroles décrivent la victoire de l'ordinateur Deep Blue sur le champion d'échecs Garry Kasparov en 1997. Une victoire interprétée ici comme le début du règne des machines sur les hommes. La guitare cinglante qui conclut l'extrait que nous allons entendre annonce ce changement d'époque.
Blue, Arcade Fire. Alors, quelle conclusion, Pierre-Étienne, peut-on tirer à l'écoute de ces trois morceaux si différents ?
Ils traduisent l'incroyable puissance évocatrice des échecs qui, dans ces trois titres, symbolise à tour de rôle la guerre froide, une relation amoureuse avortée et même l'affrontement presque inéluctable entre l'homme et l'ordinateur. Ces chansons nous rappellent ainsi que les échecs, en raison de la simplicité universelle de leurs règles, demeurent une grille de lecture pertinente pour décrypter la complexité de nos interactions sociales, ainsi que les enjeux structurants des sociétés contemporaines.
Eh ben, on a toutes les vacances pour y réfléchir. Bonne soirée, Pierre-Étienne.
Bonne soirée.
Salut et à la semaine prochaine. Et voilà, cette 16e émission, notre saison 6, a été mise en onde ce soir par H2M, Henri Marc Mutel, MUTEL. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Johanna Gavric. Merci beaucoup à elle. Merci à toute l'équipe de l'œil du tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. Merci à Thierry Dupin pour la programmation des Scuds et merci à Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec le compte L'œil du tigre et sur franceinter.fr, bien sûr, pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec l'éloge de la défaite. Il est essentiel d'avoir perdu dans la vie d'un athlète. Réflexion sur l'art de perdre en sport, mais aussi en politique, à considérer comme un sport de combat, finalement. Rendez-vous dimanche à 18h10 pour vous dire que les filles sont menées 16-12 en finale du championnat d'Europe de handball. Entre la Norvège, mais il reste une mi-temps complète. Rien n'est perdu pour les filles. Allez les Bleus. Vous écoutez France Inter, c'est une très bonne idée.